Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. On continue notre série de 7 épisodes dédiés donc à une foire aux questions géante suite à des questions qui m'ont été posées lors d'une intervention business dans un 200 heures yoga teacher training. Et donc on en est à l'épisode 5. Donc si on se rappelle les épisodes précédents, on a parlé dans le premier épisode du prix, de la fixation de ces tarifs. Dans le deuxième épisode, on a parlé plutôt visibilité et comment se faire connaître. Dans le troisième épisode, on a plutôt parlé positionnement, trouver sa spécialité pour se différencier, se démarquer de la concurrence. Dans le quatrième épisode, on a parlé des revenus d'un prof de yoga, comment on fait pour vivre de ce métier finalement. Et puis, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder, ou je vais répondre en tout cas à des questions plutôt autour de la stratégie d'offres, des offres d'une manière générale. Donc, je vais répondre à des questions comme, par exemple, comment ajouter une formule de yoga en ligne à l'offre d'un studio sans prendre le risque de voir le studio se vider. Donc, j'ai trouvé cette question intéressante, surtout la fin de la question. Comment faire de la clarté dans son offre? Qu'est-ce qui est le plus intéressant aussi entre un pass de cours ou des cartes de cours finalement et un abonnement mensuel? Comment présenter son offre quand on veut faire à la fois des cours en studio, des cours en entreprise et des cours, donc là en l'occurrence dans un centre de santé, mais donc l'idée c'est comment je fais effectivement pour un petit peu rassembler tout ça. Et puis j'avais une dernière question aussi, comment développer des cours en ligne de 20-25 minutes, comment faire, donc est-ce que c'était un petit peu l'aspect technique ou stratégique. Donc je vais essayer un petit peu de répondre à tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui et on démarre tout de suite avec comment ajouter une formule de yoga en ligne type membership en fait, hein, donc type abonnement mensuel, en parallèle finalement de l'offre d'un studio. Et alors ce qui était surtout intéressant en fait, hein, et ce qu'on vient identifier dans la question, c'est cette crainte de se dire si je propose quelque chose en ligne, du coup les gens ne viendront plus au studio. Et en fait on a un petit peu la réponse dans la question, c'est-à-dire que effectivement, et je le dis souvent hein, parce que ça fait partie des plus gros pièges à éviter finalement quand on se lance dans le yoga en ligne, la plus grosse erreur à faire, c'est de proposer exactement la même chose en ligne que ce qu'on fait en studio, donc que ce soit votre studio ou les cours que vous donnez dans une salle, peu importe. Donc c'est vraiment de se dire je vais faire un copier-coller, voire même je vais carrément mettre à disposition les replays du cours en studio. Alors il y a des formules où il y a des cas particuliers où ça peut venir aussi, et ça peut être intéressant de pouvoir donner le replay d'un cours qui a lieu en présentiel pour des personnes qui n'ont pas pu être présentes par exemple, mais d'une manière générale, quand on veut développer une offre en ligne et particulièrement un membership, et c'est souvent ce que je dis, en fait, l'essence même des cours de yoga en ligne, c'est que ça ne doit absolument pas être la même chose que ce qu'on va venir retrouver en studio. Et en tout cas, c'est l'occasion de vous amuser vous aussi sur des formats différents. Donc ça peut être par exemple effectivement proposer des formats plus courts. Pourquoi je dis plus court? Parce qu'en fait c'est majoritairement ce que viennent chercher les gens en ligne. Et aussi je sais pas si vous-même vous pratiquez des cours de yoga en ligne, après en tant que prof de yoga c'est un peu faussé, mais quand on n'est pas forcément passionné ou qu'on démarre le yoga ou autre, ça peut être très difficile de suivre un cours, en tout cas préenregistré en replay d'une heure, de tenir vraiment l'heure complète. On peut avoir tendance, et souvent les pratiquants peuvent avoir tendance à abandonner un petit peu avant. Donc le yoga en ligne, c'est justement la possibilité de proposer quelque chose de différent de ce qu'on propose en présentiel. Donc encore une fois, ça peut être des formats plus courts, mais ça peut être aussi des formats plus ateliers où on va prendre le temps, par exemple, d'aller travailler une posture, chose qu'on peut moins se permettre pendant un cours de 60 minutes en studio, à moins qu'il soit dédié à ça, mais souvent c'est rare, c'est une pratique complète, on va dire, et puis on s'attarde pas trop sur une posture en particulier. Ça peut être aussi l'occasion, en plus justement du yoga, de venir proposer d'autres clés, d'autres choses autour. Ça peut être aussi l'occasion en ligne, pourquoi pas, de partager aussi des playlists, de proposer aussi des discussions ouvertes sur la pratique du yoga ou sur d'autres sujets. Donc vraiment dans une offre en fait qui va être la continuité, être en parallèle de ce qu'on propose en studio, on va venir chercher de la complémentarité. Qu'est-ce que voudraient trouver ou veulent trouver ou pourraient aimer effectivement mes élèves en complément de ce qu'ils viennent chercher en studio? Parce que par définition, la personne qui aime pratiquer son heure de yoga en studio, elle va continuer à aller en studio. Et donc, elle sera intéressée par votre offre en ligne si c'est quelque chose qui vient lui apporter un complément. Par exemple, si c'est quelqu'un qui n'a la possibilité de venir qu'une fois prendre un cours en studio dans la semaine, il y a peut-être... Pardon. Je vais essayer de pas mourir en direct. Peut-être que ça l'intéressera d'avoir des petites pratiques qu'elle peut mettre dans son emploi du temps au quotidien. Et ces pratiques-là, elle a pas forcément envie de les faire avec plein de profs différentes sur YouTube. Si elle aime venir à vos cours en studio, c'est probablement aussi parce qu'elle aimerait que ce soit vous qui guidiez finalement ces petites pratiques en dehors du cours en studio qu'elle prend. Donc, c'est comment je peux apporter quelque chose, soit de complémentaire, soit quelque chose qui va aller plus loin sur un sujet en particulier, soit effectivement varier les formats, le niveau de proximité, les propositions, les sujets, etc. Ça peut être aussi des petits programmes sur des sujets bien définis qui sont proposés en complément des cours en studio qui sont plutôt indépendants, interdépendants les uns des autres. Il n'y a pas forcément un suivi parce que on n'est pas sûr que les élèves ils vont venir toutes les semaines au même cours chaque semaine, et donc ça peut être plus difficile de créer comme un programme, une continuité dans les cours, même si ça n'empêche pas, quand on est prof et qu'on crée ces cours, de soi-même se donner une thématique pour le mois. Mais c'est vrai que l'avantage en ligne, c'est qu'on peut aussi proposer quelque chose comme ça de plus suivi, à suivre étape par étape. Séance 1, séance 2, séance 3, séance 4, pour aller chercher un objectif. Ça peut être une posture, ça peut être travailler... Un endroit en particulier, peu importe, ça peut être une thématique aussi. Mais du coup, on va chercher qu'est-ce que je peux apporter en complément. Et donc, inversement aussi, mes cours de yoga en studio ne vont pas se vider puisque je ne propose pas la même chose en ligne qu'en présentiel. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Et vous m'entendrez souvent dire, quand on me dit « oui, mais le yoga en ligne, c'est pas la même chose que le yoga en présentiel », m'entendre dire « mais oui, c'est pas la même chose ». Et justement, ça n'a surtout pas à l'être. Donc ce qui n'empêche pas de pouvoir proposer aussi des cours sur Zoom de temps en temps de 60 minutes, etc. Mais ça, c'est plutôt dans le cas où vous n'avez pas forcément déjà justement votre studio. Là, auquel cas, peut-être qu'on peut aimer pratiquer avec vous à minima une fois par semaine des cours d'une heure, par exemple. Et puis le reste du temps, dans votre membership, vous allez proposer des choses plus courtes ou des choses différentes, ou même des ressources type des audios ou des workbooks, enfin peu importe. Mais si vous avez déjà un studio dans lequel vous donnez des cours sous un format de 60 minutes, ça va être intéressant pour vous en ligne d'aller explorer une autre approche et d'autres formats. Donc vraiment, on cherche à ce que notre offre en ligne soit un prolongement, l'étape d'après et le choix évident pour notre client de faire aussi du yoga en ligne avec nous, mais sans que ce soit effectivement la même chose ou identique. Donc, faut vraiment pas avoir peur de manquer ensuite de clients. C'est pas parce que vous allez proposer des cours, encore une fois, en ligne, que vous allez cannibaliser vos cours en studio, puisque ce sera pas forcément les mêmes personnes. Si c'est les mêmes personnes, ça sera l'intelligence justement de proposer des choses différentes. Il y a des personnes, ça va arranger de pouvoir pratiquer les deux et de jouer effectivement justement en termes de disponibilité, de temps, etc. sur le online et le présentiel. Donc voilà pour cette première question. Ensuite, on avait donc comment faire de la clarté dans son offre. Alors, comme je savais pas trop comment prendre cette question vraiment, je suis partie sur deux points. Donc d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que une offre, et notamment une offre en ligne, mais c'est valable aussi pour le présentiel, mais une offre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la jonction de trois éléments. Donc le premier élément dans une offre, c'est une transformation. Vous m'entendez souvent dire ça, et puis vous l'entendrez souvent dans le business en ligne en général, c'est j'accompagne mon client à passer de quelle situation à quelle situation. Je l'accompagne dans quel avant-après, si je devais prendre une photographie à l'instant T de avant-après, c'est quoi ? Alors, ça peut être une transformation sur quelque chose de précis. Ça peut être aussi dans le cadre, par exemple, d'un membership. Hein, c'est une transformation peut-être qui va s'installer dans le temps, qui va pas être vraiment, c'est pas genre tu commences et à la fin du programme tu sais mieux, je sais pas, travailler des postures avancées, travailler ta flexibilité ou quoi, ou alors au début du programme t'as pas confiance en toi et à la fin du programme t'as repris confiance en toi. Ça, c'est des choses qu'on peut effectivement offrir en termes de transformation dans une offre. Et donc comment on va définir finalement le point A de la personne. Je donnais l'exemple d'une future maman, voilà, son point A, ça va être, voilà, je suis enceinte, je sais pas ce que je peux pratiquer, j'ai peur de me faire mal, j'ai peur de faire mal à mon bébé, etc., etc. J'ai pas confiance, voilà, dans ce que je peux faire sur le tapis. J'ai aussi, par la même occasion, je suis un peu en ce moment peut-être stressée ou j'ai peur de ce qui m'attend, de l'accouchement, de toute cette nouvelle période de vie. Et puis le point B, c'est peut-être, ok, je vais accompagner cette maman sur ce chemin-là progressivement, et donc il y aura à la fois un yoga adapté et en même temps peut-être toute une partie aussi justement qui va lui faire du bien pour qu'elle soit plus confiante, plus dans ses désirs, dans ce qu'elle veut pour son accouchement, etc., etc. Donc ça, si vous êtes spécialisé sur ce thème-là, effectivement, vous allez avoir la maman au point A qui est dans cet état-là, qui se pose ces questions-là et qui s'inquiète. Et vous, votre objectif, au travers de votre offre ou de vos offres, ça va être de l'amener à finalement vivre cette période le plus sereinement possible, avec le moins de douleurs possible, en répondant à ses questions, en la rassurant dans sa pratique, etc. Donc là, on voit bien qu'on a une situation qui va nous amener d'un point A à un point B, eh bien, dans un membership, par exemple, qui dure plus longtemps sur l'année ou c'est une pratique en ligne, ça peut être aussi juste réussir à pratiquer le yoga régulièrement, à prendre du temps pour soi. Et donc, la situation A, c'est je prenais jamais le temps de faire du sport pour moi ou d'avoir une pratique qui me permettait de me recentrer, de me réancrer, etc. Et petit à petit, grâce au membership de Marie, de Cécile, de Sabrina, je sais pas, j'ai réussi à mettre en place une routine de pratique, j'arrive à pratiquer plus quotidiennement, ça me fait un bien fou, je sens que ça a de l'impact peut-être, je sais pas, sur mes humeurs, sur mon lâcher prise, sur mon stress, voilà. Donc c'est une transformation qui est moins comme dans un programme point A, point B, mais c'est quand même une transformation vers laquelle on veut amener cette personne. Donc ça, c'est hyper important de réfléchir à cette transformation-là. Et donc moi, j'aime bien l'image du avant-après, de décrire la personne, comment elle se sent quand elle démarre finalement avec vous et où est-ce que vous voulez l'emmener. Après, c'est plus ou moins... c'est plus ou moins détaillé, c'est plus ou moins rapide, il y a plus ou moins des objectifs précis selon la nature ou le format de vos accompagnements. Et puis, donc ça, c'est le premier élément. Je rappelle, votre offre, c'est la jonction de trois éléments. Donc, le premier élément, c'est cette transformation. Le deuxième élément, c'est vous. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui vous passionne dans l'enseignement du yoga en particulier ? C'est quoi vos aspirations, vos désirs ? Qu'est-ce que vous voulez transmettre, partager ? De quelle manière vous voulez enseigner, c'est quoi aussi peut-être des choses sur lesquelles vous avez votre propre avis qui n'est pas forcément celui du commun des mortels, et donc parfois des positions contre-intuitives dans votre domaine, mais c'est ok, c'est aussi pour ça qu'on va venir avec vous. Donc qu'est-ce que vous avez envie vous de transmettre, d'enseigner, qu'est-ce qui vous passionne dans le yoga. J'en parle dans l'épisode où je vous aide à trouver aussi votre spécialité, c'est des questions à vous poser. Donc comment vous, le yoga vous a aidé, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans l'enseignement du yoga, quel est le type de cours ou à quel type de personne vous préférez enseigner, etc. Il n'y a pas une réponse ou une question qui fait la différence, c'est un ensemble de questions qui va vous amener vers ça. Et puis enfin, le troisième élément, et parfois qu'on a tendance malheureusement à oublier, c'est votre client idéal, là, celui ou celle à qui vous vous adressez, enfin votre audience idéale, peu importe, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment acheter ? Donc j'insiste sur le vraiment acheter et surtout maintenant. Si vous voulez effectivement vendre votre offre demain matin, eh bien, vous devez pas, enfin, vous devez cibler le besoin des clients tout de suite, maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent en fait. Si le temps qu'ils comprennent là où vous voulez les emmener, il y a un temps d'éducation, entre guillemets, je dirais, qui est trop long, où vous êtes en train de créer une offre sur quelque chose où votre audience, elle n'a pas déjà eu le déclic, eh bien, peut-être que votre offre, elle va pas se vendre ou moins se vendre. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle se vendra jamais, mais ça veut dire que votre audience, elle n'est pas encore prête à acheter ça maintenant. Donc, souvent, c'est vraiment important de bien se poser cette question-là. Est-ce que c'est vraiment ce que veut mon audience maintenant ? Hein, j'insiste sur le « vraiment » et sur le « maintenant ». Et donc, une offre, vraiment une offre claire et une offre qui va se vendre, c'est une offre à la jonction effectivement de ces trois éléments. Qu'est-ce que mon client veut vraiment maintenant ? C'est quoi la transformation que lui apporte mon offre ? Et moi, est-ce que c'est vraiment ce qui m'anime, ce qui me vient du cœur ? Parce que si ça part pas aussi de ce que vous avez, ce qui vous passionne, ce qui vient du cœur, de quelque chose que vous avez vraiment envie de partager, qui peut-être aussi vous a marqué vous dans votre transformation, si vous choisissez finalement un thème un petit peu par opportunité, il y a peu de chances que ça fonctionne, ou en tout cas que ça fonctionne sur le long terme. Donc ça, déjà, c'est la première chose. La jonction de ces trois éléments est extrêmement importante. Et puis ensuite, effectivement, la deuxième perspective, c'est de pour avoir de la clarté dans son offre, ou en tout cas dans son écosystème d'offres, ça va être important d'être au clair sur justement c'est quoi le parcours de votre client. C'est quoi les étapes en fait sur son parcours, c'est quoi les points d'apprentissage, on pourrait dire aussi c'est quoi les points de blocage qu'il va rencontrer à différentes étapes. Et donc là on voit que l'idée c'est pas de fourrer toutes vos connaissances dans une seule et même offre, parce que du coup ça manquera de clarté, mais c'est au contraire parfois de venir un petit peu découper tout ça de sorte à ce que la cohérence finalement de sorte à ce que vos offres elles soient cohérentes entre elles soient bien pensées. Et puis aussi qu'à l'intérieur de ces offres, il y a vraiment une méthode, c'est-à-dire votre méthode à vous, comment vous allez accompagner votre client étape par étape sur ce parcours. Donc encore une fois, on part de cette fameuse transformation sur notre parcours client qu'on vient découper en étapes finalement, et ces étapes peuvent être effectivement plusieurs offres. Et à l'intérieur de mon offre, je m'assure que ce soit clair sur la transformation que je vais apporter avec cette offre et que ce soit pas effectivement un fourre-tout. Donc ça c'est hyper important, et donc ensuite la question à vous poser pour que votre offre soit le plus claire possible, c'est comment c'est le mieux pour mon client par rapport à cette problématique d'intégrer tout ça. Et ça va vous aider du coup à choisir les bons outils, le bon format, le bon type d'offre, la bonne durée, etc. Donc souvent c'est aussi quelque chose que vous auriez aimé trouver comme ça un petit peu en done for you à l'époque quoi, vous avez été obligé d'apprendre, d'expérimenter, de tester, ce qui fait qu'aujourd'hui vous réussissez à aboutir à cette méthode. Et donc l'idée c'est de vous dire maintenant comment je transmets cette méthode sans du coup que mon client il ait forcément à perdre du temps, à apprendre des choses, à apprendre peut-être toute la théorie que je sais, toute l'expertise que j'ai, mais comment je fais finalement pour lui donner tout ce dont il a besoin. Et parfois, ça passe aussi par, est-ce que mon client, il a besoin d'une pratique par semaine, de deux pratiques par semaine, live, pas live, plutôt préenregistrée, plutôt courte. Donc, c'est pour ça que ça va vraiment avoir un impact sur le format de vos offres, le type d'offre que vous allez choisir, etc. Et à partir de là, effectivement, vous allez pouvoir aussi avoir différents peut-être niveaux de prix pour travailler avec vous qui seront attractifs pour votre client. Et donc, c'est important vraiment de proposer ces offres qui répondent aux désirs de vos clients, mais aussi de ne pas oublier de travailler sur les freins de vos clients. Ça pourrait être quoi ? Souvent, on travaille sur le désir du client, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi son objectif, mais on oublie quand on réfléchit à son offre, quand on travaille les contours de son offre, on oublie de se dire quels vont être les freins à l'achat, ou ça serait quoi finalement, qu'est-ce qui va freiner mon client à rejoindre ce programme-là. Et en fait, c'est tout autant intéressant de travailler là-dessus quand vous travaillez sur la clarté de votre offre, les contours de votre offre, ce que vous allez mettre dans votre offre, le format de votre offre, parce qu'il y a des réponses aussi justement pour mieux définir votre offre qui se trouve dans les freins de vos clients. Donc, pensez au désir de vos clients. Je le disais tout à l'heure, hein, qu'est-ce que mon client veut vraiment maintenant? Mais pensez aussi à qu'est-ce qui le freinerait ou ça serait quoi ses objections ou ses blocages à rejoindre mes offres. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça que sur une période de pré-lancement, eh bien, on dégomme un petit peu tous ces freins, ces fausses croyances, ces mythes, etc. Mais ça suffit pas de les dégommer en termes de communication. Il faut aussi s'assurer que on y a pensé dans la manière dont on a construit notre offre. Donc, c'est vraiment, voilà, faire de la clarté dans son offre, c'est vraiment ça. C'est à la fois la jonction de ces trois éléments, transformation, moi, ce que j'aime, ce qui me passionne, ce par quoi je suis passée, parce qu'on n'oublie pas que souvent, ton expérience personnelle, tes apprentissages à toi, bah, ça va être la clé de ce que tu vas pouvoir transmettre. Et puis, qu'est-ce que veulent tes clients, effectivement, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment acheter là, maintenant? Et enfin, il y a toute cette partie aussi, par quelles étapes mon client va passer? C'est quoi le parcours de mon client pour aller du point A au point B? Qu'est-ce qu'il va rencontrer comme blocage sur ce parcours? Et donc, comment je m'assure à la fois dans mon offre de répondre à ses désirs et de traiter aussi ou d'intégrer finalement ses freins? Et finalement, comment tout ça, ça vient se transformer en format, en module, en type d'offre, etc. Quelle va être la meilleure façon pour lui d'intégrer ça? Et à partir du moment où je me pose toutes ces questions, ça veut dire que je suis quand même très centrée sur mon client. Et donc, il y a de fortes chances que mon offre, elle soit, que mon client, du coup, perçoive vraiment la valeur de mon offre. C'est pas quelque chose qui sort de ma tête. C'est quelque chose que je suis en train de construire petit à petit en me posant finalement ces bonnes questions. Et ça, c'est extrêmement important et c'est souvent ce qui fait la différence entre une offre qui se vend et une offre qui ne se vend pas. Troisième question, qu'est-ce qui est plus intéressant, le pass de cours ou l'abonnement mensuel? Alors, si je devais en choisir qu'un, je choisirais l'abonnement mensuel. Un abonnement mensuel, c'est très simple. Déjà, aujourd'hui, on est beaucoup plus habitué à ce genre de fonctionnement puisqu'il y a des systèmes d'abonnement partout et dans tout, hein, de ce qu'on regarde à la télé, à nos logiciels en ligne, à parfois aussi par exemple, des livraisons de produits bio, etc. On a l'habitude de plus en plus de fonctionner par abonnement. Donc, c'est pas parce qu'on est dans le yoga que c'est différent, hein, ça fonctionne pareil, c'est des nouvelles habitudes, des nouveaux modes d'achat, de consommation. Donc l'abonnement mensuel marche très bien. L'avantage de l'abonnement mensuel aussi, c'est que il n'y a pas de manip d'argent, de retrait d'argent, de passage d'argent, de chèques, de trucs, de coordonnées, d'envoi, d'ordre, enfin voilà, il n'y a pas 36 000 manips, c'est-à-dire je clique sur un bouton, je m'abonne pour le mois et à la fin du mois, si j'ai décidé de rester abonné, c'est renouvelé automatiquement et on n'en parle plus. Donc c'est l'idéal à la fois pour votre client parce que c'est pratique, c'est simple et il n'a pas besoin de se triturer la tête ou de penser à ça tout le temps et à savoir il en est à combien sur sa carte, est-ce qu'il faut renouveler, est-ce qu'il faut payer, etc. Donc plus on enlève de charge mentale à nos clients, mieux c'est aussi. Et puis c'est mieux pour vous aussi parce que c'est un gain de temps forcément de ne pas avoir toute cette logistique à gérer. Mais aussi l'avantage de l'abonnement mensuel, c'est que ça permet d'avoir beaucoup plus de visibilité sur des revenus plus récurrents. C'est-à-dire, on a quand même une meilleure vision quand on sait qu'on a 30 personnes qui ont un abonnement mensuel. Évidemment, il peut y avoir des désabonnements, il peut y avoir des nouveaux abonnements, mais globalement, on sait à peu près ce qui nous attend chaque mois. Donc, à moins de perdre 25 clients d'un coup. Mais voilà, ça nous donne un petit peu une tendance, quelque chose sur quoi on peut capitaliser, alors que les passes, c'est bien, mais pour le coup, on peut moins... Alors déjà, on n'a clairement pas de visibilité parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la personne, elle va utiliser finalement sa carte. Donc, pour contrecarrer ça, je dirais, parce que il y a des cas où peut-être le pass va être un peu incontournable. C'est le cas où vous avez effectivement des cours en présentiel et un nombre de places limité. Donc, où les gens sont obligés finalement... de réserver leurs cours. Alors, vous pouvez le faire aussi sous forme d'abonnement, mais c'est vrai que souvent, dans ce cas-là, on a des systèmes à carte ou des systèmes de passe, et puis la personne, elle réserve au fil de ses créneaux et de son nombre son nombre de cours qui lui reste sur son pass, en fait. Donc, moi, mon conseil, si vous êtes sur du pass, parce que vous n'avez pas le choix par rapport à, justement, peut-être cette gestion de place limitée ou autre, ou du fait que vos clients doivent absolument réserver leur rendez-vous, ce qui, encore une fois, peut être le cas aussi avec un abonnement, hein, mais c'est aussi de limiter dans le temps. C'est-à-dire que le truc de pass, il n'y a pas de date de fin, ou alors genre c'est un an pour 10 séances, c'est un peu dommage, en fait. À ce moment-là, je pense que à ce moment-là, vaut mieux faire passer la personne par des cours à l'unité, parce qu'en plus, vous, ça veut dire que quelque part, vous avez été payé et vous avez une dette de cours qui se balade dans la nature et vous savez pas quand ça va venir se présenter et se manifester. Donc déjà, il y a ça. Effectivement, il y a beaucoup moins de visibilité pour vous. Et puis, d'un point de vue, si vraiment on réfléchit, un élève qui vient qu'une fois de temps en temps, qui utilise justement ce système de passe parce qu'il ne vient pas forcément régulièrement ou quoi, ça sera peut-être aussi un élève qui sera finalement moins séduit par le yoga, qui sera moins assidu dans sa pratique, moins engagé. Le yoga aura peut-être moins les bénéfices recherchés sur lui parce qu'on sait très bien qu'un peu de yoga, une fois de temps en temps, ça peut distraire et ça peut être sympa, mais ça n'a pas les effets escomptés. Donc, quelque part, c'est pas forcément rendre service aussi que de proposer des passes par rapport, enfin, si on a envie aussi que nos élèves, finalement, soient des pratiquants réguliers, etc. Maintenant, on sait aussi qu'il existe des cas particuliers. Il y a peut-être des personnes qui ont des métiers avec des déplacements ou autres et qui sont quand même contents de venir prendre un cours avec vous dès qu'ils peuvent et pour qui peut-être le pass est plus facilitant, effectivement, parce qu'avec un abonnement, ils auraient l'impression peut-être de ne pas en profiter. Mais moi, j'ai envie de dire, si c'était ma trésorerie, en tout cas, je préférerais aussi miser sur la visibilité de mes revenus. Je préférerais finalement que cette personne-là, elle prenne un cours à l'unité de temps en temps que de s'engager sur un pass. Mais c'est pas à exclure. Je pense que c'est vraiment aussi, il faut savoir prendre la mesure en cas de cas particulier. En revanche, peut-être vous dire, par contre, je fais c'est des passes, mais c'est des passes qui sont valables un trimestre. Et auquel cas, on rentre dans quelque chose peut-être de plus avec une meilleure visibilité pour vous, une meilleure gestion, et puis justement qui encourage aussi l'élève à utiliser ses cours sur cette période-là. Donc voilà, j'ai une prédilection pour l'abonnement mensuel. Évidemment, en ligne, c'est sûr et certain, ça sera l'abonnement mensuel. Mais après, encore une fois, ça peut dépendre des cas de figure. Juste, si vous fonctionnez avec des cartes ou des passes, essayez de optimiser le fonctionnement du pass à la fois pour vous et à la fois pour votre élève. Donc voilà par rapport à cette question. J'avais une autre question. Comment présenter mon offre si je veux faire des cours en studio, des cours en entreprise et des cours dans un centre de santé? Le point commun de ça, en fait, cours en studio, en entreprise et dans des centres de santé, c'est que ce sont des lieux. Et en réalité, ici, c'est juste des lieux différents en soi. Donc, comment présenter mon offre? Partir de la clarté sur toi, justement, quel prof de yoga tu es et qu'est-ce qui t'anime? Alors, on en revient toujours en même, en fait, hein, c'est quoi ta spécialité à toi et qu'est-ce que tu vas du coup apporter à ce studio, à cette entreprise et à ce centre de santé? Et probablement que tu vas pouvoir trouver dans ce qui t'anime toi, dans ce que t'aimes, un point commun qui va être valable en fait et une manière de faire, hein, encore une fois, un petit peu ta manière de faire, ce qui te différencie, ton approche unique, ta singularité, la manière dont toi t'aimes enseigner. Probablement que c'est quelque chose qu'on peut retrouver à la fois dans ton enseignement quand tu donnes des cours en studio, quand tu donnes des cours en entreprise et quand tu donnes des cours dans un centre de santé. Donc l'idée, c'est un petit peu de venir mettre en avant qu'est-ce que toi, tu vas apporter dans ta pratique et c'est quoi, en fait, pratiquer le yoga avec toi? C'est quoi les bénéfices, mais que tu apportes toi, pas les bénéfices du yoga en général, c'est-à-dire les bénéfices de toi, ta manière d'enseigner et pourquoi, entre guillemets, on devrait te choisir dans le studio, on devrait te choisir en entreprise et on devrait te choisir dans ce centre de santé. Et en fait, du coup, tu vas présenter ton approche et après, en dessous, finalement, j'ai envie de dire, là, je me visualise sur une page de service ou un site internet ou autre, eh bien, on a le choix. Soit on travaille avec toi dans les cours que tu donnes en studio, soit on travaille avec toi par le biais de son entreprise, soit effectivement, on peut te retrouver dans ce centre de santé. Donc, ça, c'est encore une fois, le lieu ici, il n'a pas beaucoup d'impact. Ce qui va être important, c'est OK, c'est quoi ton message à toi? C'est quoi, toi, ta manière d'enseigner, ta spécialité et ta manière, à la limite, pourquoi on devrait te choisir toi? Qu'est-ce que tu vas nous apporter? Et ce que tu peux mettre en avant aussi, c'est comment ça se passe un cours avec toi. Peut-être que dans les trois cas, tu vas avoir la même manière, la même méthode, entre guillemets, d'enseigner ton cours. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais peut-être que tu vas commencer par... une respiration systématiquement et puis un flow et puis une méditation à la fin, bah ça peut être intéressant de partager comment ça se passe un cours avec moi, de détailler un peu ta méthode, ton process et du coup voilà, c'est ta patte à toi aussi, c'est ta manière de construire ton heure d'enseignement entre guillemets, et ça on va aimer en fait qu'on soit un studio, une entreprise ou ce centre de santé, bah retrouver cette information là sur comment ça va se passer si on travaille avec toi. Donc ça peut être intéressant de détailler un petit peu, entre guillemets, ton process, ton approche, ta manière de faire. Et d'ailleurs, c'est le même principe aussi quand on donne des cours en one-one. J'avais fait un épisode là-dessus. Et puis enfin, la dernière question. Alors évidemment, je l'aime beaucoup cette question puisque c'est la question, c'est comment développer des cours en ligne de 20-25 minutes, comment faire, mais surtout... L'idée derrière ça, c'était, c'est pour me permettre d'augmenter des élèves, enfin de développer mon chiffre d'affaires finalement, sans augmenter mes heures, parce que mes heures en présentiel, elles sont déjà saturées. Donc là, j'aime beaucoup parce qu'effectivement, on voit que bah, pour passer au-delà de cette saturation où c'est plus possible de donner d'autres cours, on a envie d'aller proposer quelque chose en ligne et on sent déjà qu'on se dirige vers quelque chose de complémentaire avec des cours plus courts, c'est le cas de le dire, de 20-25 minutes. Donc, bah, développer des cours en ligne de 20-25 minutes, comment faire ? Je ne sais pas trop si c'était la réponse attendue, mais y a juste à créer ton cours de manière à ce que, effectivement, ce soit un cours... complet, hein. Donc quand je dis complet, voilà, c'est qu'on est bien jusqu'au bout de la pratique en 20-25 minutes. Ensuite, t'as juste à... Alors, soit c'est des cours que tu fais en live, mais si tu souhaites que ce soit, par exemple, des vidéos préenregistrées, bah, effectivement, il va falloir prévoir d'enregistrer la séance. Donc pour ça, pour t'enregistrer, bah, encore une fois, là, moi, j'ai... Il y a plusieurs possibilités, hein. On peut utiliser tout à fait un iPhone de bonne qualité ou un téléphone de bonne qualité. On peut utiliser du matériel type appareil photo caméra si on a aussi ce matériel-là, comme on peut aussi venir enregistrer une vidéo sur Zoom ou quoi. L'essentiel, ça va être d'avoir quand même... une image de qualité, mais surtout, un son de qualité. Donc là, bah, après, c'est toujours pareil. En fait, ça dépend de l'environnement dans lequel on enregistre. Parfois, on va avoir besoin de micro, parfois pas, parce que bah, selon l'espace de la pièce, la résonance, etc., même votre propre voix. Donc ça, c'est des choses à tester. En général, on utilisera effectivement un micro et souvent, le plus plébiscité, c'est le micro Rode par les profs de yoga. Donc, c'est ce que je vois le plus souvent. Donc, je crée mon cours de 20-25 minutes. J'enregistre effectivement mes séquences. Je les édite, donc avec montage ou sans montage, mais voilà, j'édite la vidéo. Et ensuite, tu vas venir héberger tes vidéos. Et du coup, tu vas vendre un accès finalement à ces vidéos. Donc, ces vidéos, tu peux venir idéalement les héberger sur une plateforme de formation. Du coup, bah, quand les personnes à qui tu veux vendre après finalement ta vidéothèque, on va dire, elles vont pouvoir, moyennant un abonnement par exemple, avoir accès à ces vidéos sur la plateforme. Donc après, tu auras une manière sur cette plateforme d'organiser tes vidéos. Ça peut être par thème, ça peut être par durée, ça peut être par les vidéos les plus récentes, les plus anciennes de ce mois-ci, du mois dernier, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui vient se travailler. Mais après, selon... Alors, je sais pas comment tu souhaites aborder ces cours en ligne, mais après, dans un premier temps, hein, ça peut être aussi... Donc toi, c'est des cours en ligne de 20-25 minutes. Ça peut être aussi, si c'est pas du préenregistré, ça peut être aussi des lives que tu peux faire sur un groupe Facebook privé où voilà, les gens à qui tu veux donner ces cours, ils te rejoignent dans cet espace-là. Ça peut être aussi effectivement juste d'avoir les gens, ils achètent l'abonnement. Donc par exemple, tu as une plateforme en ligne, comme par exemple moi j'utilise Systemio, qui va permettre aux gens de payer leur abonnement en ligne. Et après, derrière, c'est des gens qui sont tagués abonnement, par exemple, et à qui tu vas pouvoir envoyer le lien Zoom du mois, par exemple, si tu veux faire des cours en live sur Zoom, enfin en visio, j'ai envie de dire même, de 20-25 minutes. Donc en fait, il y a plein de possibilités. Il y a soit j'héberge des vidéos quelque part, soit effectivement je donne des cours, c'est des cours en direct. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de venir créer une formule mensuelle d'abonnement. Ou alors tu peux même créer un programme si tu le souhaites, mais dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu cherches plutôt, voilà, à avoir quelque chose de complémentaire en ligne. Et donc dans ce cas-là, ça serait plutôt une formule d'abonnement. Et après, à l'intérieur de cette formule, donc c'est typiquement moi ce que j'appelle le membership et ce que j'aide mes clientes à développer, à l'intérieur de cette formule, tu peux soit proposer des lives, soit proposer des vidéos préenregistrées, soit proposer les deux. Et après, bah, libre à toi, d'avoir des thématiques particulières à la semaine, au mois, etc. Enfin, ça, c'est des choses effectivement qu'on développe aussi dans YogiBizLine. Donc, développer des cours en ligne de 20-25 minutes, c'est voilà, il suffit de les créer. En fait, encore une fois, ça dépend si tu veux des cours préenregistrés ou des cours en live ou des cours en visio. Mais après, c'est très facile à partir du moment où le plus dur, c'est de créer les cours, finalement, de te filmer, même si ça, c'est plus oser se filmer peut-être. Et puis après, vraiment, l'hébergement et la vente, bah voilà, enfin ça, effectivement, faut apprendre à le faire, mais une fois que tu sauras le faire, c'est facile. Et du coup, tu peux vendre tes cours en ligne et proposer des cours en ligne de 20-25 minutes très facilement. Donc voilà, je pense que on a fait le tour pour en tout cas les questions que j'ai eues sur cette thématique. S'il y a d'autres questions, bah, n'hésitez pas à partager l'épisode et puis à venir me poser votre question sur Instagram. Je m'arrête là pour cet épisode du coup numéro 5. Il nous en reste deux dans la série FAQ. Donc on abordera dans l'épisode 6 l'emailing et dans l'épisode 7 mindset et organisation. YogiBiz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye!